Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Sie sind live in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Wir berichten noch über die große Krise in Elfenbeinküste nach dem Wahl vom 28. November 2010. Unser Gast ist Honora Deyedan per Telefon aus Abidjan. Viel Spaß auf Kanal K. Am Mikrofon, ich bin Sylvain Amos. Bonsoir Abidjan, bonsoir Niamey, Lomé, Accra, Kinshasa, Dakar, amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, bienvenue à tous au cœur de l'actualité africaine sur Radio Canal K en Suisse. Nous retiendrons au sommaire de l'édition de ce soir l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Tunisie et au Togo. Au total, trois invités de Fenêtre sur l'Afrique, il s'agirait de l'Ivoirien Honora Deyedan, directeur du journal panafricain Afrique Compétences. Il nous fera ses analyses sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Nous le recevons en direct en ligne depuis Abidjan. Après le congrès de M. Agbeume Kodjo de Obu, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, nous allons le recevoir pour qu'il nous fasse les grandes lignes de ce congrès. Il sera également en ligne depuis Lomé en direct. Olivier Caillot, un jeune étudiant de la diaspora ivoirienne, nous rejoindra dans la rubrique « La parole au peuple dans Fenêtre sur l'Afrique ». L'équipe est au complet pour vous conduire jusqu'à 21h. Gisela Rosato à la supervision générale. Josué Maoli et Esteban Gagnon pour la programmation musicale. Parfaite collaboration de Romain Koudodi et de Fabi Kouassi. Devant ce micro, vous pouvez m'appeler Sylvain Amos. Asia. Amis fidèles auditeurs, amis du continent noir, encore une fois, bonsoir et merci d'avoir choisi Radio Canal K pour vous informer. Avant toute chose, je vous propose de suivre avec moi l'auditorat de la soirée signé sous la pluie, signé par Romain Koudodi depuis l'Allemagne.
Côte d'Ivoire, plan de guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. Tant elle tue et traumatise les peuples, et la reconstruction devient tellement difficile après qu'elle n'est pas recommandable. Charles Taylor, seigneur de guerre qui finit sa vie au TPI. Le rebondissement de la crise politique en Côte d'Ivoire cette semaine semble ne pas finir de sitôt et met la communauté internationale au pied du mur. Ouvrons tous ensemble, avec votre permission, une fenêtre sur ce beau pays de l'Afrique et qui parle tant d'elle. En effet, sur le plan diplomatique, après un premier rond d'entretien mardi, le négociateur de l'Union africaine, le premier ministre kenyan Raila Odinga, a poursuivi sa médiation dans l'espoir bien maigre d'organiser une rencontre entre Laurent Koudou Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Odinga, en fin de mission, vient de jeter l'éponge pour une mission impossible en indexant Laurent Gbagbo de mauvaise foi. Le camp Ouattara, depuis son refuge de fortune, a lancé un mouvement de grève sans aucune impasse sur les Ivoiriens qui vaquent librement à leurs occupations comme si rien n'était. Le message n'a pas été entendu. Au même moment, à Bamako, la capitale malienne, une réunion des chefs d'État-major de plusieurs pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, étudient, eux, les différents scénarios possibles d'un éventuel recours à la force. La CEDEAO ayant suspendu la Côte d'Ivoire de ses instances au début du mois de décembre et menace depuis Laurent Gbagbo d'une intervention militaire s'il ne cède pas le pouvoir à son rival Alassane Dramane Ouattara. Cette réunion intervient alors que le président burkinabé Blaise Compaoré devait rencontrer ce mardi son homologue français Nicolas Sarkozy à Paris. Une délégation de la CEDEAO l'accompagne pour discuter de la situation en Côte d'Ivoire et d'une éventuelle intervention militaire en renforçant de plusieurs milliers de personnes l'ONUCI. La stratégie consiste à mettre sur orbite le Nigeria au front pour chasser Gbagbo. Qu'à cela ne tienne, Gbagbo tout comme Ouattara ne sont pas des blancs-seins. Mais là où l'agacement frise l'ironie, c'est que pour s'entendre pour régler une crise politico-africaine, Sarkozy convoque des présidents élus comme des boys de maison pour leur donner des consignes. Sinon, que vont aller chercher ces gaillards cette semaine encore chez Sarko? Conduit par le dinosaure impénitent Blaise qui ne veut pas vider le pavé après 20 ans de gouvernance et de dictature, que dis-je de monarque, celui-là est-il mieux placé pour dire à Gbagbo de vider le pavé, à moins que le ridicule ne tue pas? Évidemment, en Afrique, cela ne tue guère. Nos indiscrétions nous font comprendre que dans la crise ivoirienne, le président Sarkozy a harcelé plus de 15 fois en une journée le président nigérien Jonathan Goodluck en lui donnant des consignes de fermeté contre Gbagbo. Faut-il rire ou pleurer? Le temps nous le dira. La grande question qui vaut la peine est celle-ci. Que gagne l'Afrique à engager une guerre sans fin contre Gbagbo qui risque de basculer toute la sous-région? Peut-être que la réponse se trouve chez M. Sarkozy, mais soyons-en sûrs, si guerre il y aura en Côte d'Ivoire, même la France n'en sortira pas glorieuse. Et l'Afrique, toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, en souffrira pendant de longues années. Vive l'Afrique pour que vive le monde.
Ne tirez pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance, la Côte d'Ivoire est touchée. Aïe, aïe, aïe. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. 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 Tu sais bien que tôt ou tard, un jour nouveau se lèvera. L'arc-en-ciel reviendra. Maman, je prendrai soin de toi. Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête.
Non.
Toi qui n'as jamais sémé le vent. Après la pluie, le beau temps. We'll be right back.
Tirez pas sur l'ambulance, ma Côte d'Ivoire est blessée, chantée par Alpha Blondie. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire perdure toujours. Elle appelle donc à la conscience de tout Africain pour un apaisement total dans ce beau pays de café-cacao. Les Occidentaux et en l'occurrence la France soutiennent M. Ouattara alors qu'une grande partie des Africains font confiance à Laurent Gbagbo qu'il désigne président réélu. Dans ce cas de figure et au-delà des choix partisans, pour chaque Ivoirien et pour chaque Africain, il est impérieux de constater qu'il y a une véritable bataille qui se joue entre la Chine et l'Occident dans cette crise ivoirienne. Cette bataille se fait à travers des appuis militaires directs ou indirects. Mais il faut aussi rappeler que l'opinion africaine est divisée sur la crise ivoirienne. Nombreux sont les observateurs qui trouvent étrange et suspect le soutien de la communauté internationale à Alassane Ouattara. Pour comprendre les enjeux politiques dans cette crise ivoirienne, et bien sûr sans langue de bois, nous allons nous entretenir dans un instant avec un homme de médias, M. Honora Deyedane, directeur du journal Afrique Compétences. Je pense qu'il est déjà en ligne depuis Abidjan. Nous le recevons tout de suite. M. Honora Deyedane, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Vous êtes directeur de publication Afrique Compétences, un magazine international dédié à la promotion des valeurs africaines. Vous êtes également ancien directeur général du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, paraissant à Abidjan. Et pour finir rapidement votre présentation, je dirais que vous êtes aussi ancien président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Monsieur Honora Deyedane, sans langue de bois, dites-nous rapidement en quelques mots, comment et pourquoi est-on arrivé à ce stade de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire?
Écoutez, si je voulais être, prendre un raccourci, et si je voulais être méchant, je dirais que c'est un pays qui est pipé entre deux adversaires, l'un voulant se protéger contre l'autre. C'est simple. Il y a un processus électoral. Et dans ce processus électoral, il y a deux acteurs qui ont un rôle à jouer, la CEI et le Conseil constitutionnel. L'un a tout fait pour que la CEI soit entièrement favorable à 90%, c'est Alassane Ouattara. L'autre a mis en place un conseil constitutionnel qui lui est tout aussi favorable, ça se fait dans tous les pays du monde, mais qui a le dernier mot. Voilà en deux mots comment les choses se présentent. Donc, à la fin du processus, une des institutions a déclaré Ouattara provisoirement vainqueur, hors délai d'ailleurs, et le Conseil constitutionnel, lui, a déclaré, après avoir invalidé un certain nombre de régions, le président Gbagbo élu. Mais il faut prendre le temps de comprendre que c'est beaucoup plus un traquenard électoral, parce que les deux acteurs que je viens de citer et les deux institutions que je viens de citer, ça correspond aussi à la division du pays en deux. Le Nord est entre les mains des militaires, des seigneurs de guerre de Ouattara, et le sud étant la République où on peut librement voter. Donc au nord, on n'a pas pu voter librement, au sud, on a pu voter librement, et donc la contestation électorale est née du fait que la CEI n'a pas pris en compte les contestations qui ont été avancées par le parti au pouvoir, c'est-à-dire celui du chef de l'État.
Oui, monsieur Honora Dédane, le ministre des Affaires étrangères ivoirien, Alice Dédé, a révélé mercredi dernier à Abidjan que le gouvernement de son pays n'est plus prêt à recevoir le premier ministre kenyan Raila Odinga comme médiateur de l'Union africaine dans la crise que traverse votre pays, la Côte d'Ivoire. La médiation de l'Union africaine a connu de nouveau un échec. Et comment interprétez-vous la médiation de l'Union africaine?
Ben écoutez, ça c'est une médiation. Il faut appeler les choses par le nom. Avant ce premier ministre que nous ne mette pied en Côte d'Ivoire, il faut avoir toutes les déclarations qu'il a faites. On ne vient pas à une médiation avec des idées préconçues, avec une feuille de route, avec un de charge, et je dirais pour faire un ultimatum. Odinga est arrivé tout simplement pour faire comprendre au président Laurent Gbagbo qu'il faut qu'il laisser la place à Ouattara. Et ça, c'est pas une médiation. C'est une médiation sur le pays. Il faut qu'on parte avec une idée que qu'il faut se souvenir. C'est pas un régime, c'est pas un chef d'État, mais il faut se donner une démocratie. Ce dont nous avons besoin, nous, les Ivoiriens et les Africains, c'est que la démocratie, les régimes passent, mais un système démocratique fort des institutions qui stabilise le pays. On le voit partout. Donc, si on veut un médiateur, c'est un médiateur qui prend le problème à sa racine et non en surface. L'Afrique est présentement le berceau de l'humanité, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le tombeau de l'humanité. Il n'y a qu'en Afrique que les éleveurs d'élections et par des élections. Là où ailleurs, ça ouvre la voie à la liberté, où ça ouvre la voie à la démocratie, où ça ouvre la voie à l'indépendance et à la prospérité économique et politique.
Oui, monsieur Honora Dédane, dans un débat télévisé retransmis et sur la radio-télévision ivoirienne avec nos confrères du journal Le Figaro et de France 2, dont le thème était « Rôle des médias dans la crise post-électorale », vous affirmiez que Laurent Gbagbo n'a pas aussi totalement coupé le cordon ombilical avec la France, et ce qui veut dire que Gbagbo non plus n'incarne pas l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Et pour argumenter vos propos, vous affirmez aussi que Gbagbo avait aussi financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Pourriez-vous nous dire un peu davantage sur ces propos qui restent quand même à vérifier et également sur le rôle des médias face à la crise ivoirienne, et monsieur Honora D. Edan?
Écoutez, il faut savoir une chose, il faut prendre le contexte dans lequel le chef de Gbagbo est arrivé au pouvoir. Gbagbo se veut une rupture. Ça, au moins, c'est clair. Sinon, il y a longtemps que ce serait aligné avec le président Fouette Boigny. Il faut lui avoir fait des propositions, lui avoir fait des sollicitations au cours du conseil des ministres, devant tous les ministres, pour lui avoir proposé d'intégrer son gouvernement. De faire et poser ses conditions. Il faut qu'il y ait une transparence, il faut qu'il vote à bulletin unique et tout ça. Donc, c'est qu'il s'est voulu un homme de rupture. Mais regardez dans le contexte, il est venu au pouvoir. Quand on regarde le contexte, on comprend qu'il a eu la sagesse de dire, même tant qu'il n'y a pas la cohésion interne dans mon pays, je ne vais pas ouvrir un autre front qui est le front contre la France. Sachant pertinemment qu'il n'est pas l'homme de la France, qu'il n'est pas accepté par le système de la France-Afrique. Mm-hmm. Donc, il n'a pas voulu ouvrir un front, il n'a pas été l'homme de la rupture. Il faut au moins la France est aussi présente en Côte d'Ivoire de manière très forte qu'elle était sous Fouet, sous Bébé ou sous tout autre président. En revanche, ce que je suis en train de dire, que n'importe fait, je suis en train de dire que un exemple qui illustre le fait que le chef d'État Gbagbo a refusé d'incarner la rupture, la radicalité, que par exemple Mamadou Coulibaly a perdu son poste de ministre des Finances parce que tout simplement il a fait des déclarations sur le franc CFA qui voulait voir être un franc flottant. Bon, ça c'est le point. Le deuxième point, je déclare, j'affirme, et je suis là pour confirmer, que Gbagbo, d'une manière peut-être contre lui, malgré lui, a dû intervenir en apportant un concours financier à sa cause dans sa campagne. Mais ça, c'est tous les chefs d'État. C'est pas, j'ai révélé cela pour montrer que tous les chefs d'État sont soumis à une telle pression, puisque quelque part, chez l'Africain, si la France ne doute pas, c'est n'es pas un chef d'État. Tu ne te sens pas maintenant chef d'État. Il faut que tu ailles faire une visite en France, il faut que Nicolas Sarkozy vienne en Afrique. Voilà comment nos chefs d'État, et quelque part, par voie de chapitre, je ne dirais pas à ce complexe, mais quelque part, il a besoin aussi d'être aimé. C'est ça, c'est humain.
Oui, et M. Honora Deidane, sur un autre volet de la crise ivoirienne, il y a une véritable bataille que la Chine et la Russie livrent à la France et aux États-Unis qui soutiennent Alassane Ouattara. Comment expliquez-vous ce soutien de la Chine et de la Russie à Laurent Gbagbo? De quoi on pense également que Gbagbo veut faire croire au peuple ivoirien et à toute l'Afrique qu'il est en train de livrer un combat de nationalistes contre l'envahisseur qui est l'Occident, mais qu'en réalité Gbagbo n'incarne pas le changement démocratique en Côte d'Ivoire, ni pour le développement de ce pays?
Non, non, non. Sur ce point, je peux vous affirmer la chose suivante.
Allez-y, oui.
En matière de démocratie, Gbagbo a plus à porter que tous les chefs d'État auxquels il a succédé. En matière de démocratie. Vous savez, les gens ne disent pas la vérité. Nous sommes le seul pays au monde où les revenus financiers, c'est-à-dire le trésor, la douane, les impôts, c'est par appel à candidature que Gbagbo choisit les dirigeants. C'est-à-dire tous ceux qui ont dirigé ces structures-là ne sont pas partis du RPI. Ils ne sont pas de son... Il y en a même un d'entre eux qui s'est porté candidat contre Gbagbo pour ses élections présidentielles et a rallié le camp de Alassane Ouattara. Et nous sommes un des rares pays où les journalistes ne sont pas mis en prison parce qu'ils ont fait des déclarations, ont écrit quelque chose fait contre le régime. Vous venez encore voir les journaux et comment ça fonctionne. Donc ça, au moins, en termes de démocratie, on a apporté. Le combat entre la Russie, la Chine, les États-Unis et la France, c'est pas un combat désintéressé. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Ces deux pays mènent un combat, pas pour l'Afrique, mais pour leurs intérêts. Mais c'est ce qui est légitime. Chacun se dit... je marque des points, demain j'en tirerai un produit, un intérêt économique, et ça c'est légitime. Demain, si la Côte d'Ivoire sort de cette crise et que ça fait une puissance régionale, la Côte d'Ivoire va aussi mener au niveau régional, comme le Nigeria le fait aujourd'hui, des points pour son intérêt. Aucun pays ne grandit en faisant grandir en face d'autres pays et demain peuvent le combattre littéralement au plan diplomatique, au plan culturel, au plan économique. Un pays aspire à l'hégémonie. Voilà. Donc, c'est pas parce que Gbagbo veut faire croire qu'il est l'homme, le nationaliste, que la Chine le soutient, parce qu'il a leur intérêt à le soutenir.
Oui. Honora Deidane, et il y a également cette solution de la CEDEAO qui est vraiment importante et on devait le souligner. La CEDEAO veut opter pour une force militaire pour une solution ou bien pour une sortie de crise en Côte d'Ivoire. Est-ce que la meilleure solution est Monsieur Honora Deidane?
Vous savez, quand vous regardez la CEDEAO avec le Nigeria, avec Ouad, avec le Burkina Faso, il y a qu'on va vous poser des questions, est-ce qu'on parlerait. Mais vous savez, il faut qu'on se pose vraiment des questions sérieuses. Est-ce qu'on a abrité tous ces seigneurs de guerre qui ont attaqué la Côte d'Ivoire? Où est la CEDEAO à cette époque? Quelle est la décision que la CEDEAO a prise? Ne serait-ce que pour les désarmer, ne serait-ce que pour dire on peut faire des élections sans qu'il y ait des partis à nous ou la CEDEAO. Mais c'est des présidents de Nikele. Moi, je n'ai aucun respect pour des gens comme les Blaise Compaoré qui maintiennent leur peuple dans la misère et ne prospèrent que dans la misère de leur peuple. Le ministre n'est pas un exemple de démocratie. Vous voyez bien ce qui s'y passe. Depuis des années, ce sont des tueries et tout. Le ministère s'est à peine stabilisé. Le Kenya, n'en parlons pas, à peu près 1000 morts au sortir d'élections, au dengue qui est arrivé, si vous ne pas donner des leçons de démocratie. L'Afrique est le tombeau de l'humanité aujourd'hui. Il faut en prendre conscience et il faut quitter dans ça, comme les gens le disent, il faut quitter dans ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne faut pas chercher à sauver des régimes, il ne faut pas chercher à sauver des dictateurs, il faut chercher à sauver des institutions, il faut chercher à sauver la démocratie. C'est comme ça que les pays européens ont pu se développer. Vous savez, l'Europe, pour faire l'Union européenne, un des critères se sont imposés, que des pays comme l'Espagne, comme la Grèce et autres rejoignent l'Union européenne, c'est qu'il y ait des élections démocratiques, qu'il y ait des institutions démocratiques, c'était des préalables. Si on veut un PCD à haut forte, passons par dire tous les présidents qui viennent à tête d'État par un coup d'État peuvent être membres de la CEDEAO. Ça, déjà, c'est une bonne instruction. Commençons par dire tous ceux qui sont incapables de faire des élections démocratiques, comme on l'a dit tout dernièrement au Burkina Faso, où deux Burkinabés n'ont pas voté. Les cartes d'électeurs ont été remises en cause par l'appareil judiciaire, c'est-à-dire que par la Cour suprême qui a constaté que ce n'est pas le type de cas de l'électeur qu'il fallait, que ces gens-là ne puissent pas être membres d'aucune institution de la CEDEAO, qu'ils ne respectent pas un minimum d'exigence démocratique. C'est comme ça qu'une communauté forte se construit. Si la communauté se construit sur des bases aussi affaiblies, qu'on accepte n'importe quel pays, le chef de l'État marche sur les coups de ses citoyens pour venir au pouvoir, nous allons nous ridiculiser à chaque fois qu'il y a ce type de crise.
Monsieur Honora Dehedan, en tout cas, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Abidjan. Je rappelle aussi que vous êtes directeur de publication Afrique Compétences, un magazine international dédié à la promotion des valeurs africaines. Encore une fois, merci et on se retrouve peut-être samedi prochain et pour encore d'autres actualités et sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire.
Merci et je vous remercie pour que vous souteniez. L'Afrique doit grandir par la démocratie et non par des régimes politiques aux mains ensanglantées.
Avant de prendre M. Agbome Kodjo, président d'Obu, nous allons prendre d'abord notre correspondante Fabi Kwasi à Lomé et pour l'actualité politique au Togo et bien sûr de la semaine au Togo. Mais bien avant ça, on marque une petite pause musicale. Maintenant, je pense que Fabi Kwasi est déjà en ligne depuis Lomé et nous la recevons tout de suite. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir à Fenêtre sur l'Afrique.
Merci pour votre parfaite collaboration. Vous suivez pour nous les activités du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement au Togo. Un front qui, décidément, veut changer de stratégie pour sa revendication hebdomadaire de la victoire de Jean-Pierre Fabre lors de l'élection présidentielle du 4 mars dernier. Fabi Kwasi, dites-nous un mot sur le FRAC.
Oui, changement de stratégie dans la constance quand même, hein, parce que le FRAC est toujours dans les rues, le FRAC est toujours à Salem pour ses cultes du mercredi. Ça fait quand même 3 samedis hein, que les marches ont repris. Le débat au niveau de la presse aujourd'hui, c'est que l'affluence a baissé, mais il ne faut pas oublier que le FRAC revient de loin après 3 mois de répression, de gaz, de tirs à bout portant de gaz lacrymogène et des fois même de balles réelles, balles en caoutchouc et balles à billes. Donc il faut reconsidérer tout ça et effectivement inciter le FRAC à changer de stratégie. Et le changement de stratégie réside dans la sensibilisation aujourd'hui, sensibilisation accrue. C'est pourquoi le FRAC a délégué ces éléments sur l'étendue du territoire pour des rencontres de sensibilisation avec les Togolais de l'intérieur, la communication au niveau des radios, le porte-à-porte, la communication dans les quartiers également a repris ce week-end. Et donc, avant même, au lendemain de la présidentielle du 4 mars, quand les leaders politiques, notamment Jean-Pierre Fabre, a annoncé que ce sera la contestation dans la rue, aucun Togolais n'y croit, parce qu'après les années 90, c'est ce que la répression de la rue a occasionné comme martyr, comme mort, comme blessé. Personne n'y croyait. Donc, et pourtant, le FRASC est arrivé à mettre quand même 400, 500 000, voire plus dans les rues. Aujourd'hui, ce n'est plus les 400 000, 500 000 dans les rues, mais les abonnés, les inconditionnels de ces marches sont toujours là, et avec le travail de sensibilisation, de communication qui se fait autour, on espère que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, le FRASC va retrouver sa vitesse de croisière. En tout cas, ce samedi, les inconditionnels sont encore là, et le FRASC, en tout cas, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'opposition aujourd'hui, de retrouver les Abitissa, les Megogé, les Jean-Pierre Fabre, les Yann Yann Kofi ensemble pour la même cause, le bien-être, le devenir des Togolais. Je pense que c'est quand même un point positif qui fait espérer, hein, comme un certain RHDP en Côte d'Ivoire. Et il faut reconnaître que ce qui se passe en Tunisie donne du baume au cœur aujourd'hui aux Togolais qui sont dans la logique du FRASC, c'est-à-dire la rue. Quand vous écoutez un peu les radios au cours des émissions interactives, la majorité des Togolais qui interviennent veulent s'inspirer de l'exemple de la révolution, Jasmin.
Oui, Fabi Kouassi, où en est-on avec le dossier de la fermeture des radios privées au Togo? Est-ce qu'il y a une chance pour la réouverture de ces radios privées?
De toutes les façons, les professionnels des médias n'ont pas le choix, hein, que de lutter pour que ces radios-là soient réouvertes dans les brefs délais, parce qu'au-delà de X solaire, de Radio Métropolis et de Providence qui sont fermés aujourd'hui, les gens ont comme l'impression que c'est toute une liste, c'est toute une bataille qui est orchestrée au niveau du CERAI du pouvoir pour faire taire certains médias, les médias jugés critiques. Et donc, après plus d'un mois de fermeture de radio, on va dire que c'est le statu quo, mais depuis quelques semaine, SOS Journalistes en Danger est parti en guerre contre cette décision arbitraire, parce qu'il faut le rappeler, au niveau de la loi organique de la RAC, aucune institution, que ce soit la RTP qui ferme aujourd'hui les radios ni la RAC, ne sont censés, hein, fermer une radio Togo, sauf la RAC bien sûr, avec une décision de justice. Donc pour fermer une radio aujourd'hui au Togo, selon la nouvelle loi organique de la RAC, il faut une décision de justice, et la RTP est allée fermer arbitrairement les radios de façon illégale. Et aujourd'hui, il y a une pétition qui circule au niveau de la presse, au niveau de toute la population togolaise, pétition que les gens doivent signer pour prouver vraiment aux autorités que les gens sont décidés à aller jusqu'au bout. En tout cas, SOS Journalistes en Danger promet des actions musclées dans les jours qui viennent, notamment des sit-ins, notamment des marches. Et cette pétition-là, ces pétitions qui sont signées seront envoyées à Fornia Simbé au courant semaine prochaine. C'est vous dire que, je ne vais pas dire que c'est un bras de fer, mais les organisations de presse ne sont pas restées bras croisés face à la fermeture de ces radios-là. Et il y a beaucoup d'auditeurs de ces radios, surtout X Solaire, qui a une grande audience, qui ne demande qu'à descendre dans la rue. Donc les autorités, en même temps que Fornia Simbé, demandent à ce que le gouvernement soit à l'écoute du peuple togolais à travers les critiques qui se font sur les médias. Fornia Simbé n'a rien à gagner en fermant ces radios-là, en faisant une liste de musellement de la presse aujourd'hui. Donc il faudrait que les discours suivent les actes. Il ne faudrait pas qu'on prône la liberté de presse et qu'en sourdine, qu'on passe par des institutions et des organes de la République pour museler la presse. Et les organisations de presse, les journalistes dans leur ensemble vont se mobiliser pour défendre le peu d'espace de liberté qu'ils ont.
Oui, Fabi Kouassi, la célébration du 13 janvier qui jadis est célébrée à grand pompe a été pour la première fois fêtée sans bruit de botte à Lomé au Togo. Quelle analyse faites-vous et que peut-on retenir de la célébration du 13 janvier au Togo, Fabi Kouassi?
De toute façon, il faut faire très attention avec la célébration du 13 janvier, parce que ce n'est pas parce que les bruits de botte n'ont pas sifflé cette année qu'il faut tout de suite crier Alléluia, Amen, la réconciliation va se faire, parce que ça ne se décrète pas. C'est un long processus. C'est vrai que pour une fois, ça s'est célébré dans le recueillement, la prière, si je veux reprendre le terme officiel, où Fornia Simbé, son gouvernement et les imams et le clergé et les pasteurs se sont retrouvés au palais des congrès pour célébrer un culte ou une messe ou une prière en mémoire du premier président démocratiquement élu du Togo et froidement assassiné, mais ce qui repose fondamentalement également le problème et le devoir de vérité. Pourquoi Sylvanus Olympio a été assassiné? Qui l'ont assassiné? Je pense que il faut une commission d'enquête pour éclaircir l'opinion nationale et internationale sur cet assassinat. Parce qu'après bien des années, on a remarqué un gouvernement belge qui a reconnu quand même avoir la main dans le meurtre de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, au-delà du triptyque vérité, justice et réconciliation, on a comme l'impression que nos autorités veulent s'appesantir sur l'aspect réconciliation, mais il n'y a pas de réconciliation qui soit possible s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de justice. Je pense que la réconciliation sera un vain processus. C'est pourquoi, au niveau du clergé, de tout le clergé catholique, avec Mgr Pondro, les Mgr Amoussou Diakba, toute l'Église aujourd'hui qui s'est prêtée à cette célébration au niveau du Palais des Congrès de Lomé, aujourd'hui, au niveau de l'opinion, n'a plus pignon sur rue. Les gens arrivent même à douter des hommes de Dieu qui doivent être un facteur de réconciliation, un facteur de trait d'union. Je pense qu'il faut faire très attention parce qu'au-delà de ce recueillement-là, c'est le devoir de vérité. C'est reposer même la question de l'histoire du Togo, cette histoire-là que certains ont voulu tronquer, une histoire que nous devons quand même aux générations à venir est présente. Donc c'est là où ceux qui pensent que Faure Gnassingbé est en train de faire une politique de réconciliation doivent quand même faire très attention et analyser beaucoup plus objectivement cette célébration-là. Et fondamentalement, ça a encore été célébré dans la division. Vous n'êtes pas sans savoir que le courant ANC qui était dans l'UFC dans le temps est resté fidèle à cette célébration-là et a fait son culte au niveau de Salem pendant que le gouvernement et Gilchrist Olympio étaient au Palais des Congrès. Donc loin d'unir les Togolais aujourd'hui, qu'ils soient célébrés dans le recueillement ou dans la prière, le 13 janvier divise toujours profondément les Togolais. Et ça, Mgr Baringa, qui préside la commission de vérité, justice et réconciliation, qui était au Palais des Congrès, avec des paroles mielleuses, devrait en tenir compte.
Fabi Kouassi, merci. To Revolution, African Revolution, une révolution jeune, a chanté Tchikendja Fakoli. Nous avons finalement réussi à joindre depuis Lomé à Guillaume Kodjo, que nous allons recevoir tout de suite. Bonsoir, monsieur Messan Kodjo à Guillaume.
Oui, bonsoir, Sylvain Amos.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et évidemment, vous n'êtes plus à présenter à nos auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, mais je rappelle quand même que vous êtes ancien Premier ministre au Togo, ancien président de l'Assemblée nationale, président de OBU, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Monsieur Agbemi Kodjo, vous venez de clore votre congrès extraordinaire baptisé Congrès de la Renaissance. OBU renaît-il de ses cendres? Quelles sont les grandes décisions du congrès, M. Agbemi Kodjo?
Non, le congrès s'est penché sur, en tout cas, les thèses fondateurs de notre formation politique, Nous avons revu les statuts, nous avons revu également le règlement intérieur, nous avons doté notre parti de Nîmes et nous pensons que par rapport donc à la crise dans laquelle donc le Togo se trouve aujourd'hui, et il y a un certain nombre de recommandations donc du Congrès, notamment par exemple pour les prochaines élections, chercher donc à sécuriser tout le processus. C'est-à-dire que au lieu que la communauté internationale intervienne en aval pour se plaindre ou pour féliciter du bon déroulement du scrutin, nous vous avons proposé que cette communauté internationale s'implique dès les premières heures dans la préparation des élections. Par exemple, au niveau de la CENI, nous avons proposé que l'Union africaine envoie un de ses représentants présider les travaux de la CENI 6 mois avant les élections, que l'ONU désigne un de ses experts pour sécuriser dans le processus électoral et, valider les résultats provisoires avant qu'ils ne soient transmis à la Cour constitutionnelle. Au niveau des CELI également, l'expérience togolaise a montré que tous les juges qui sont présidents de nos CELI, que ne sont pas impartiaux et que donc ils ont une conviction et un engagement politique qui n'est pas ancré, si vous voulez, de toute façon dans l'alternance. Nous avons demandé également que les CELI soient présidés donc par des experts envoyés donc par la CDAO. Au niveau des bureaux de vote, nous avons proposé que l'Union européenne donc coordonne l'ensemble des observateurs et qu'elle dépêche dans chaque bureau de vote 2 de ses représentants, pas pour faire un tourisme donc dans les bureaux de vote, mais pour y rester dès l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à leur clôture et quitter donc les bureaux de vote avec une copie des résultats donc du dépouillement entre les mains. Je pense que si cette procédure est adoptée, nous allons de bon chemin consacrer, célébrer donc la vérité des urnes. Dans cette procédure, en tout cas, les risques de fraude donc, seront limités et le véritable gagnant, c'est-à-dire celui que les suffrages auraient donc désigné comme vainqueur du scrutin, c'est celui-là que et la CENI et la Cour constitutionnelle proclameront du moins comme vainqueurs. Et je pense que la crise que traverse le Togo étant essentiellement d'ordre politique lié donc à la volonté de ceux qui sont au pouvoir d'y rester ad vitam, s'inscrivant ainsi dans ce que nous pouvons appeler les présidents à vie, je crois que si nous mettons, du moins en application, cette approche qui a été décidée donc par le Congrès extraordinaire, je suis sûr du moins que l'alternance que les Togolais appellent de tous leurs voeux pourrait du moins me voir le jour.
Monsieur, voilà. Oui, monsieur.
Voilà, allez-y. Pour, le processus électoral, mais nous avons également évoqué le problème lié au financement des partis politiques. Il est établi aujourd'hui qu'à chaque scrutin, le parti au pouvoir donc fait appel aux régies financières donc de l'État togolais et aux sociétés d'État qui apportent du matériel et des finances pour soutenir le candidat du pouvoir. Alors que les candidats de l'opposition, eux, ils doivent se débrouiller pour aller chercher du moins les ressources pour financer leur campagne. Dès lors que c'est à la même compétition du moins à laquelle nous tous ou tous les candidats prennent part, il va falloir qu'il y ait une loi, en tout cas prise à l'Assemblée nationale, qui définissent les conditions de financement des partis politiques et qui limitent également, si vous voulez, les budgets de campagne. Faure dit qu'il a gagné, nous lui dénions de toute façon, en tout cas, cette réalité, il n'a pas gagné, mais il y a un de ses proches collaborateurs qui dit « Non, nous avons gagné, mais nous reconnaissons avoir du moins dépensé beaucoup de milliards. » Donc je pense que si nous voulons demain construire la démocratie dans ce pays, il faudrait que pour chaque compétition électorale, que tous les candidats soient donc mis dans les mêmes conditions et que un candidat ne mette pas 1000 fois donc les moyens donc disponibles pour les autres candidats. Donc, je crois que...
Oui, monsieur Agbemi Kodjo, une question qui intéresserait beaucoup de Togolais, c'est la question du fameux dialogue. Et vous faites partie des formations politiques qui se bousculent au portillon du fameux dialogue inclusif de Fonia Singbe. Ben, pourquoi et pourquoi faire? Pour quels résultats, monsieur Agbemi Kodjo?
D'abord, il y a moins d'un an que nous étions à l'élection présidentielle. Il y a moins d'un an que Faure a usurpé son second mandat. S'il était convaincu que les suffrages des populations lui étaient favorables, je ne suis pas sûr que Faure convoquerait en moins d'un an des élections, en moins d'un an, donc des élections, un dialogue. Ça veut dire que le fait que Faure convoque ce dialogue-là, donc est un signe que les choses ne marchent pas et que lui-même implicitement reconnaît les difficultés et qu'il a mobilisé l'opinion, en tout cas en sa faveur. La deuxième chose, c'est que, ayant conscience que Faure n'a pas gagné les élections, dès les premiers jours, lorsque nous étions donc invités par le premier Zongo pour prendre part à son gouvernement, nous étions la première formation politique à l'invité, nous avons posé des conditions. La libération donc de nos frères et sœurs militants de la démocratie et de l'alternance qui sont privés de liberté, et également nous avons demandé qu'un dialogue direct soit donc organisé avec ceux qui contestent la victoire de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, il accepte qu'on aille au dialogue. Nous n'allons pas au dialogue donc pour rentrer forcément dans un gouvernement, nous allons au dialogue pour poser les vrais problèmes de la nation. Si ça doit être un dialogue de plus, ça ne nous intéresse pas. C'est pour ça que je disais tantôt à un de vos confrères que s'il y a un hégémonisme, parce que nous disons que Faure n'a pas la légitimité de gouverner le pays, si nous voulions nous asseoir pour faire l'inventaire de toutes les préoccupations des Togolais, l'inventaire de leurs aspirations et leur trouver des réponses, oui, le dialogue donc sera productif et apportera un changement dans la vie des Togolais. Mais c'est pour aller, pour donner une légitimité que Faure n'a pas, je crois que ça ne nous intéresserait pas. Mais oui, nous ne pouvons pas refuser donc le dialogue, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin aujourd'hui, à moins que nous nous organisions et on se mobilise tous, et on crée de toute façon les situations que nous voyons sous d'autres cieux. Bon, mais nous ne voulons pas de souffrance supplémentaire pour ce peuple. Le pouvoir en place a suffisamment tué, a suffisamment de toute façon versé le sang des Togolais dans mon chemin par terre. Donc je souhaite vivement qu'il y ait une solution de sortie de crise pacifique. Donc au Togo, nous y allons et je pense que nous serons exigeants et fermes dans nos revendications. Mais si de toute façon nous ne pouvons pas trouver de réponse à des questions qui sont claires et qui peuvent être acceptées donc par des esprits sains, de toute façon, nous ferons demi-tour. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport à ce dialogue, que je considère que c'est le dialogue de la dernière chance pour ce régime. Si le régime échoue à trouver des solutions pour apporter des réponses idoines aux préoccupations des Togolais, en tout cas, je crois que la porte sera ouverte, en tout cas, à toutes les crises possibles, parce que nous ne pouvons plus accepter cette situation plus longtemps.
Oui, monsieur Agbemi Kodjo, on en avait pour le dialogue au Togo, on en avait beaucoup connu. Est-ce à dire que vous avez subitement cru à la bonne foi de Faure Gnassingbé juste parce qu'il a annoncé un dialogue, monsieur Agbemi Kodjo?
Je ne crois pas à la bonne foi de Faure Gnassingbé. Mais nous disons dans notre formation politique, et également au niveau du FRAC, que Faure Gnassingbé n'a pas gagné les élections. Nous voyons une population aujourd'hui, de toute façon, dans une situation de désespérance absolue. Est-ce qu'il faille croiser les bras et laisser la minorité régnante piller, à ciel ouvert, les ressources de ce pays et pousser les Togolais à la mendicité? Si nous ne voulons pas dialoguer, si nous ne voulons pas nous rencontrer de tout à l'heure pour échanger nos points de vue sur les meilleurs, les meilleures approches pour sortir de cette crise, il faut aller chercher des armes. Et moi, de toute façon, je suis contre la violence.
Monsieur Agbome Kodjo, la crise ivoirienne interpelle beaucoup d'Africains et j'espère que vous aurez probablement quelque chose à dire par rapport à la crise ivoirienne.
Oui, par rapport à la crise ivoirienne, je dis ceci. La Constitution ivoirienne prévoit deux mandats. La Constitution ivoirienne prévoit du moins un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Si nous faisons le bilan, l'un dans l'autre, le président Gbagbo a fait 10 ans. Mais le fait de refuser de respecter la vérité des urnes, donc expose la Côte d'Ivoire à des incertitudes. Nombreux sont nos frères et sœurs qui ont pris le chemin de l'exil. Nombreux sont ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, qui sont sous des mesures de rétorsion, donc au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis. Nombreux sont également les Ivoiriens qui, chaque jour, tombent sous le coup des balles assassines. On ne sait pas, je ne peux pas dire seulement que c'est du côté de Gbagbo, mais dans une situation confuse comme ça, en tout cas, il y a des snipers qui opèrent. Je souhaite que, au nom de l'intérêt de nos populations, au nom de l'intérêt de la sous-région, que le président Gbagbo tire les conséquences de la situation qui prévaut aujourd'hui et qui se dise 5 ans, ce n'est pas loin, je peux me retirer pour préserver la stabilité et l'unité de la nation ivoirienne, mais au bout de 5 ans, si Dieu veut, comme donc ce fut le cas pour le président Mathieu Kérékou, on ira peut-être le chercher si Ouattara et ses amis n'arrivent pas à combler les attentes des Ivoiriens. C'est mon point de vue. Et je suis contre également à ce niveau-là toute solution militaire pour vouloir déloger Gbagbo, parce que les dégâts collatéraux seraient, à mon avis, nombreux et graves, donc, pour la paix en Côte d'Ivoire.
Monsieur Agbome Kodjo, merci.
La parole au peuple. La parole au peuple, c'est dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K.
Eh bien, la parole au peuple, nous allons tout de suite Olivier Caillot est au studio avec nous. Nous allons discuter avec lui et la crise ivoirienne. Olivier Caillot, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique dans la rubrique La parole au peuple. Vous êtes un jeune étudiant ivoirien et vous résidez en Suisse depuis 5 ans.
Exactement.
Vous avez certainement suivi Monsieur Honora Deidan qui vient de nous faire le point sur la crise post-électorale dans votre pays et la Côte d'Ivoire.
Oui.
Et quel regard portez-vous sur ce qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire?
Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est énormément triste. C'est triste parce que on se retrouve aujourd'hui dans un pays où les gens pensent qu'au nom de la soi-disant souveraineté d'un État, on peut tout faire, on peut tout se permettre. Je cite donc l'ex-président même que je vais appeler Laurent Gbagbo, il n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui la constellation politique mondiale, la constellation diplomatique mondiale veuille qu'il y ait un droit interne, donc dans chaque état du monde, mais veuille qu'il y ait aussi un droit international qui s'élève au-dessus du droit interne de chaque état. Et ce droit international-là ne permet à aucun président du monde d'assassiner qui que ce soit, donc que ce soit les gens de son pays, et c'est un droit qui permet pas à Laurent Gbagbo d'aller contre le monde entier, tout seul. Et j'aimerais au passage donc rappeler cette fameuse citation de Laurent Gbagbo qui disait lui-même « Où compte aller Milosevic avec le monde entier contre lui ?» Et aujourd'hui c'est le cas de figure dans lequel on se retrouve en Côte d'Ivoire. Alors j'aimerais que le président Gbagbo comprenne, et surtout tous les gens qui l'entourent, Donc, Monsieur Honoré de Yedagne également, à travers le discours duquel on a pu le noter, enfin moi j'ai pu le noter, alors que Monsieur Laurent Gbagbo a le dos au mur, il a la communauté internationale contre lui, on peut l'appeler comme on veut. Aujourd'hui les gens essaient de le masquer, de l'appeler de tous les noms, ce sont les gens qui soutiennent Ouattara, donc... voilà, donc les ennemis de la Côte d'Ivoire, de la souveraineté de Côte d'Ivoire, qui sont contre Laurent Gbagbo, mais je pense que les choses ne sont pas comme ça en réalité.
Et oui, et Monsieur Alassane Ouattara, qui est soutenu par la communauté internationale, n'exclut toujours pas la force militaire pour un dénouement de la crise ivoirienne. Et là, il compte aussi sur la CEDEAO. Hein. Et pensez-vous que ce moyen peut régler définitivement le problème ivoirien?
Ben écoutez, je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas le moyen auquel il faut s'adonner, tout d'abord. Je pense que le plus important serait de miser sur le dialogue. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on constate que malgré toutes les tentatives de dialogue qui ont pu être engagées de part et d'autre, et je dirais surtout du côté de la communauté internationale avec
surtout de l'Union africaine,
De l'Union africaine, de la CEDEAO, avec tous ces nombreux médiateurs qui ont toujours essayé de rencontrer M. Laurent Gbagbo, ils ne sont arrivés à rien, à aucune décision finale permettant donc à Alassane Ouattara d'occuper ses fonctions de président de la République. Et je pense que M. Laurent Gbagbo est aujourd'hui dans une logique politique selon laquelle où il s'éternise au pouvoir et où il est prêt à partir par les armes. Et le moment viendra. Je l'espère pas. J'espère que d'ici là, ils trouvent une solution. Ils arrivent à régler la situation. Mais je pense que si tout cela continue comme ça, le moment viendra où Laurent Gbagbo devra partir par les armes.
Olivier Caillot, donc pour vous, la force militaire pour un dénouement de la crise politique est aussi quand même souhaitée.
Mais oui, évidemment. Moi, j'aimerais bien que tous ces gens qui défendent Laurent Gbagbo me disent exactement ce qu'ils défendent dans l'homme. Parce qu'il est clair, je dis, aujourd'hui, il faut qu'on se dise une certaine vérité en tant qu'Africain. Moi, Olivier Caillot, je ne défends pas Ouattara pour avoir... 5 francs de lui ou 100 francs de lui. Moi, je suis un homme purement indépendant et qui subvient tout seul à ses besoins. Mais j'aimerais aussi qu'il voit les choses de ce côté-là. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut arriver au niveau où on est prêt à sacrifier tout un État, tous des pauvres gens au nom d'une seule personne. Et que tous ces gens donc qui prennent position pour Laurent Gbagbo, généralement, donc, toutes ces grandes personnalités me disent exactement ce qu'elles défendent, en disant que M. Laurent Gbagbo est le président élu et qu'il a le conseil constitutionnel derrière lui. Encore une mauvaise lecture, une lecture erronée, donc, de la loi, puisqu'ils ont manipulé, donc, la constitution de Côte d'Ivoire, parce que le conseil constitutionnel n'avait pas le droit, après les élections, de proclamer le président. Le conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire avait soit la possibilité de valider les élections ou de les invalider et de les organisés dans les 40 jours qui suivent.
Oui, Olivier Caillot, le temps qui est contre nous est malheureusement, et merci d'avoir fait le déplacement et depuis notre studio de Radio Canal K. Et merci encore une fois, et on aura d'autres possibilités et de nous trouver encore pour discuter de la crise ivoirienne.
La Côte d'Ivoire est touchée. Je t'aime, ma Côte d'Ivoire. Je t'aime, ma Côte d'Ivoire. Je t'aime, ma Côte d'Ivoire. Je t'aime. Tu sais bien que tôt ou tard, un jour nouveau se lèvera. L'arc-en-ciel reviendra. Maman, je prendrai soin de toi. Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête.
Non.
Toi qui n'as jamais sabé le vent. Après la pluie, le beau temps. La paix pour tes enfants.
bien, fenêtre sur l'Afrique et stop fin. Au micro, Sylvain Amos, collaboration Fabi Kouassi, Romé Koudodi, Esteban Gagnon, Josué Manli, Gisela Rosato. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Canal K.